Bon, alors là, nous allons faire de la aborder la polyurcétique. Alors, c'est un gros mot qui est très qui vient du grec, qui signifie que l'attaque, la prise des villes, ou c'est l'art des sièges aussi, autrement dit. Donc, associé aux fortifications et aux différentes techniques de guerre. Alors, ce que je verrai surtout, c'est que nous plaçons dans le cadre de ce que les historiens, et notamment Rogers, ont appelé un peu rapidement la révolution militaire. C'est comme ça que l'on désigne pour tout ce qui se passe en Europe, disons, du 15e au 18e siècle, qui se traduit par, bien sûr, l'usage intensif de l'artillerie, les progrès de l'artillerie, la force du feu, la puissance du feu, qui va nécessiter une réponse de la part de la défense, c'est ce que je vais voir aujourd'hui, la fortification bastionnée. Mais la révolution militaire, entendue dans un sens beaucoup plus large aussi, ça veut dire que les différentes armées sont des armées de plus en plus nombreuses et de mieux en mieux outillées et qui se déplacent selon une logistique qui est en lien avec une administration. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la révolution militaire, qui permet de faire passer en fait les effectifs de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers déjà dès la fin du XVIIe siècle. Donc très rapidement, ce qui va marquer pour nous la fortification bastionnée, c'est le fait, je vais aller très vite parce que vous l'avez déjà vu, c'est l'apparition de l'artillerie et l'augmentation de la puissance de l'artillerie. Alors, on sait que l'artillerie apparaît déjà dans les conflits franco-anglais dès le XIVe siècle, mais à partir des années 1400 qui nous intéressent, on a des fabrications de canons de plus en plus capables de jeter des boulets puissants, que ce soit des bombardes d'abord, puis des canons, dont vous avez vu certainement les différentes techniques, et notamment les canons qui sont coulés. Donc, qui demande des techniques bien spécifiques et surtout des finances colossales. Hein, tout le monde ne peut pas fabriquer ce type de canon. Donc, l'artillerie devient de plus en plus lourde à la fin du 15e siècle, que les noms soient couleuvrine, faucon, canon, notamment. Et ça veut dire qu'on a très vite nécessité de rationaliser la production, hein, je vais vite, de manière à ce que effectivement les pièces soient adaptées les unes aux autres, ce qui veut dire que ce sont les pouvoirs monarchiques ou étatiques qui prennent en compte la fabrication de ces canons, et notamment que les fonderies sont en général des fonderies royales. Pensez à celle de François Ier à Paris, à côté de la Grange aux Célestins, ce qui est devenu le quartier de l'Arsenal. Bon, donc on a dans cette puissance, ça se traduit au cours du XVIe siècle par des capacités pour un canon à tirer jusqu'à 80 coups par jour, alors qu'au début, on était à une dizaine de coups par jour, hein, et il fallait faire refroidir l'ensemble. Donc, les savants se sont intéressés, bien sûr, hein, à la mathématisation de la balistique, et le nom que vous devez connaître, c'est celui dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, Niccolò Fontana, dit Tartaglia. Donc, l'introduction du raisonnement mathématique dans l'art militaire, ça veut dire pour lui, dans son ouvrage Les Quesiti e Invenzioni diverse de 1556, qu'il non seulement il utilise l'extraction des racines carrées pour organiser la mise en bataillon des troupes, vous voyez l'application des mathématiques, que les mathématiques pour calculer la puissance et la trajectoire des boulets. Donc, il expérimente, il utilise vraiment tout ce que Archimède, Euclide ont pu dire déjà, ont pu écrire sur le mouvement dans l'air, notamment, et c'est comme ça qu'il va fabriquer des tables d'artillerie qui vont être discutées par tous les ingénieurs ensuite qui travaillent sur l'artillerie. L'autre question importante, c'est pas que la fabrication des canons, vous le savez, c'est aussi la fabrication de la poudre. Donc, il s'agit là aussi de donner des tables de proportion pour les différents artilleurs, de manière à ce qu'ils ne se trompent pas dans les proportions. La poudre est fabriquée avec du salpêtre. En général, on a 10 parts de salpêtre pour 2 parts de soufre et 2 parts de charbon. Bon, on ajoute un peu de vinaigre ou d'eau pour fabriquer la poudre. Donc, il faut salpêtre, soufre et charbon. Et on donne les proportions. Encore faut-il que les artilleurs sachent faire les règles de 3. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se trompent dans les proportions. Ça peut, les produits explosifs, ça devient dangereux. Donc, là, ce qui est amélioré aussi dans la fabrication de la poudre, c'est le battage. La poudre doit être battue. Et donc, c'est les moulins à poudre, en quelque sorte, qui ont beaucoup plus de puissance, et la poudre est frappée encore plus longtemps, ce qui améliore la qualité. Alors, je passe sur le type de couleuvrine, de faucon et de mortier que vous avez complètement à droite. Ce que vous avez à retenir ici, pour moi, c'est cet usage de plus en plus important en matière de siège, de cette artillerie lourde qui fait que on a non seulement à proximité des places qui vont être assiégées une artillerie lourde, mais aussi à l'intérieur des places pour essayer de se défendre, plutôt des canons légers et dans les casemates des grosses arquebuses qui vont servir à la défense. Bon, comme l'artillerie n'est pas mon propos, je passe maintenant à la conséquence. La puissance du feu augmentant, ce n'est plus la peine de construire des tours médiévales de défense. Parce que le boulet de canon fait une énorme brèche sur la verticalité. Donc, on va chercher une solution. C'est finalement les Italiens qui vont trouver une réponse à la défense. C'est déjà essayer de transformer la forme de la tour. Et on va passer progressivement de la tour circulaire à ces tours triangulaires, ces bastions, qui sont des bastions à orillons quand ils ont des oreilles, si vous voulez. Et c'est cette transition qu'on va aborder aujourd'hui jusqu'à arriver donc à la fortification bastionnée, les merveilleuses fortifications à la Vauban. Donc, c'est par tâtonnement, on pourrait dire, que les Italiens, dans les ateliers, ont imaginé d'abord de transformer les tours. Et quand ils ont été sur le terrain, ils ont proposé, essayé donc des formes, pour voir si elle s'adaptait à la résistance à l'artillerie lourde. Alors, l'exemple ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que à Sarzanello, on est passé ici, c'est un ingénieur que l'on a. Voilà. Donc, c'est un ingénieur, Francesco Di Giovanni, que l'on appelle le Francion. donc c'est un Italien au service de Florence, qui a été d'abord formé, c'est un artisan menuisier, puis il a été préparateur surface à peindre, donc de peinture, et il est devenu ingénieur architecte de Laurent le Magnifique. Il a donc, au service de Laurent le Magnifique, du Medici, il a eu à tenter d'améliorer, de réparer les forteresses, mais aussi il a eu l'autorisation, en quelque sorte, d'en créer de nouvelles. Donc il a tenté, au sommet d'une colline, de, à partir de 1493, vous voyez, d'opter pour un des angles... par un ravelin triangulaire, et on est là au tout début du passage de la tour ronde au bastion qui va avoir une forme triangulaire. Donc il a ce qu'il propose aussi, vous voyez, c'est de larges remparts, ça aussi c'est nouveau, des remparts qui sont des remparts de terre, et c'est finalement autour de cette problématique que va s'organiser la fortification bastionnée. Il s'agit d'entourer la fortification d'un glacis de plus en plus vaste, d'un glacis de terre qui va servir à amortir les boulets de canon. Donc il faut éloigner, l'idée c'est d'éloigner le centre de la ville ou de la fortification des canons ennemis. Donc c'est ce que l'on appelle une fortification en profondeur. Donc non seulement on va changer la forme de la fortification, mais on va changer les alentours de la fortification. Alors là, les Italiens qui, vous voyez, ont essayé aussi, là c'est l'ingénieur Sangallo, qui a... proche dans la province de Sienne, à Poggio Imperiale, va, vous voyez, essayer de développer donc ces bastions de part et d'autre. La grande ligne droite, c'est la courtine, et il va commencer à donner aussi une forme triangulaire, une forme en tout cas qui permet, et ça va être la préoccupation, qui permet d'éviter les flanquements. Les tours rondes, pour les défenseurs, laissent des angles morts. Hein, vous les voyez au niveau de... à gauche, hein, vous avez toute une partie qui n'est pas couverte par l'artillerie défensive. Donc, il s'agit de trouver une forme de tour et de défense qui permette aux défenseurs, par des tirs croisés, de toucher toujours l'ennemi. Donc, c'est la forme du bastion. Vous le voyez ici, d'abord, c'est un bastion qui va être tenté aussi à angle droit et qui permet, en fait, de couvrir absolument tous les extérieurs de la fortification et de prendre celui qui attaque vraiment sous le feu, sous les feux croisés. Donc, c'est cette solution que les Italiens vont progressivement obtenir en cherchant hein, des formes adaptées. Et le premier vraiment bastion tel qu'on le connaît, celui qui est dessiné en bas, on le doit à Michele San Micheli, qui est un ingénieur italien qui a été chargé de la défense de Vérone, et en 1527 il a produit, vous voyez, il y a à la fois une tour ronde, il y a des formes qui ne sont pas celles du bastion, mais il a commencé à mettre un bastion. Donc, ce qu'il prévoit aussi dans ces bastions angulaires, c'est de mettre une artillerie qui est une artillerie lourde sur les plateformes et une artillerie légère de plus bas calibre qui serait à la base des bastions à l'intérieur, hein, donc on améliore le système défensif. Et c'est ce modèle de Michele San Micheli qui devient au milieu du XVIe siècle, dans les années 1540-1550, le modèle de bastion que l'on va tenter d'améliorer. Alors, en même temps, ces ingénieurs qui réfléchissent à la meilleure forme possible pour la défense réfléchissent à ce qu'est une forteresse dans son rapport à la défense humaine. C'est-à-dire qu'ils en viennent à affirmer qu'au fond, une fortification sert à repousser, bien sûr, un grand nombre d'attaquants. Donc, ce qui leur importe maintenant, c'est d'essayer d'évaluer ce qu'une fortification à 4 bastions, à 5 bastions, à 6 bastions, à 8 bastions, à 10 bastions est capable de repousser en termes numériques. Ils réfléchissent toujours en termes de proportions. Est-ce que le mur, un peu plus de courtine, une courtine plus large, un plus grand nombre de bastions, c'est-à-dire est-ce que la maçonnerie va permettre une défense supplémentaire par rapport à un nombre d'ennemis? Ce qui intéresse, c'est de savoir quel est le rapport entre attaquants et défenseurs. Vauban dira après, une fortification, c'est le rapport de 1 à 10. Ça permet d'avoir à l'intérieur de la défense, de la place forte, 10 fois moins d'hommes que le nombre d'attaquants. Mais, 16e siècle, les Italiens cherchent quelle est cette proportion. Tartaglia, notamment, cherchera la réponse. Et pour lui, ce qui est important chaque fois, c'est de réfléchir sur sur ce rapport quantitatif. Donc, progressivement, on arrive à une théorisation, et c'est aussi chez Tartaglia, dans le livre 6 des Caecity, qu'on a une théorie du front bastionné. C'est vraiment la fortification moderne, avec, vous voyez, les bastions ici qui sont aux angles, la position des batteries et surtout la position des ouvertures et des portes, avec possibilité d'accès aux fossés par des poternes. Alors, arriver à définir un tracé de la fortification. On a une quantité de dessins, vous voyez, à l'intérieur d'un bastion, son système de composantes, comment on bâtit un bastion, la nécessité d'avoir des contreforts. Donc il y a toute une réflexion sur les forces, le rapport entre la maçonnerie, la poussée des terres, etc. Ce sont tous ces calculs qu'on va trouver progressivement dans les traités de fortification. Mais ce n'est vraiment qu'à partir des années 1560-70 que l'on commence à avoir des écrits qui ne concernent en fait que la fortification. Jusque-là, on avait dans le même traité l'artillerie, les machines de guerre et la fortification et un peu d'attaque des places. Avec l'ouvrage d'un Italien aussi, Zanchi, on a un ouvrage qui va traiter de la fortification, mais aussi, ce qui est important, de la poriocétique. Donc on a, à partir de 1556, le premier ouvrage, l'ouvrage de Zanchi, sur la manière de fortifier, un ouvrage qui donne les conditions mêmes pour faire une bonne fortification, et aussi il y a tout un chapitre sur la façon d'attaquer cette place. Alors, les différents ingénieurs qui sont invités par les souverains étrangers, pensez à Girolamo Bellamarto, l'Italien qui a été invité par François Ier et qui a construit le Havre, par exemple. Mais il a aussi fortifié Amiens. Girolamo Marini a fait aussi des bastions devait le faire pour Dijon. Donc beaucoup de villes françaises, mais aussi certaines villes anglaises, ont été fortifiées par les Italiens. C'est pour ça que pour le XVIe siècle, on retrouve quasiment les mêmes modèles. Mais en 1560, il va y avoir une tentative de fortification idéale, et c'est celle que l'on retrouve au nord de Venise. C'est la fortification de Palmanova, qui est une merveille du genre, commandée par la République de Venise. Et là, il s'agit de trouver une forme géométrique idéale qui permette, vous voyez, là on est dans l'octogone, qui permette à l'intérieur aussi une ville idéale. C'est-à-dire qu'on croise l'idéal de la Renaissance, de la ville idéale, avec sa place centrale. Est-ce que c'est un plan endiamier, est-ce que c'est un plan concentrique, et le type de défense, avec donc ces bastions, la fortification bastionnée. Et ce que l'on commence à apercevoir là sur la vue aérienne de Palmanova aujourd'hui, c'est que la fortification bastionnée de base, qui correspond au plan qui est en haut, a été progressivement modifiée. Et ce que vous voyez, c'est que pour éloigner de plus en plus l'attaquant du centre de la place, on construit des ouvrages avancés qui sont détachés du corps. C'est, alors, on peut avoir des demi-lunes, notamment, qui sont donc placées entre deux bastions et qui permettent d'avoir des soldats qui attendent en quelque sorte l'ennemi et constituent un premier barrage. Donc, c'est toute la marche de la fortification bastionnée, c'est d'éloigner de plus en plus l'ennemi de la place centrale. Donc, les Italiens réalisent sur place, mais aussi écrivent. C'est le cas de... Non, voilà, c'est pas là. De... où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. C'est le cas notamment d'un capitaine, Castriotto, Jacopo Fusti Castriotto, qui a écrit un ouvrage sur les fortifications des cités, publié à Venise en 1564. C'est un ouvrage magnifiquement illustré qui va circuler dans toute l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Castriotto, qui est un militaire, un homme de terrain, un fortificateur, mais aussi un poliorcète, va s'associer à un humaniste qui a une belle plume, Girolamo Maggi, parce qu'il considère que lui-même, il ne sait pas suffisamment bien écrire pour transmettre ce qu'il veut. Donc, cet ouvrage va être l'ouvrage, on pourrait dire, de référence. Donc, Castriotto, qui se fait, qui est connu aussi, va venir en France et il va être nommé ingénieur général de l'armée française par Henri II. Et c'est sous l'étendard du roi de France qu'il mourra donc dans une attaque en pleine guerre. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a dans cet ouvrage les techniques de siège. Dans le troisième livre, c'est découpé en trois livres, et Castriotto prend l'exemple des sièges qu'il a vécu, et notamment le siège de la Mirandole, pour donner des conseils dans la méthode à suivre pour attaquer une place. Alors, c'est un des premiers ouvrages vraiment du genre, et où il va utiliser le dessin aussi pour montrer ce qu'il est nécessaire de faire, comment se placer au moment de l'attaque par rapport aux éléments, de la figure que l'on a à attaquer. Et donc, c'est un ouvrage extrêmement concret, figuré, qui va devenir le modèle du genre. Alors, je passe rapidement, mais tout pratiquement ce que l'on qualifie de aussi de scientifique à ce moment-là, et je pense que vous ne refuserez pas le terme de scientifique à Galileo Galilei. Donc 1564-1642, qui a publié des brèves instructions pour l'architecture militaire en 1592 et en 1600, je vous le traduis en français, un traité des fortifications. Donc c'est intéressant de voir que Galilée, hein, dont on parle plutôt pour son procès ou pour ses découvertes de satellites de Jupiter à partir de sa lunette, avait accepté à l'université de Padoue en 1592 un poste. Donc Padoue, l'université de Padoue dépend de la République de Venise, un poste où il avait enseigné l'architecture militaire. Donc, il enseignait en fait à qui ? À des nobles ses leçons de fortification, ce qui voulait dire qu'il leur apprenait non seulement toute la géométrie euclidienne, l'arithmétique, mais il leur apprenait à utiliser le compas militaire, hein, ce qui veut dire que les nobles qui venaient fréquenter ces cours pensait avoir à appliquer assez rapidement aussi, hein, des talents d'ingénieur. Donc, non seulement il donnait des cours à l'université, mais dans sa maison, il avait installé une boutique-atelier où travaillait un forgeron nommé Marcantonio Mazzolini qui fabriquait pour lui des instruments mathématiques, dont ces fameux compas militaires. Donc, il faisait fabriquer les compas militaires dont il apprenait dans ses cours l'usage à son public, de nobles. On sait qu'il avait à peu près 28 étudiants, hein, donc c'était déjà pas mal. Donc ce sont tous ces cours qu'il met ensuite en forme, hein, dans ses ouvrages qu'il va publier. Oui, je vous ai pas donné le nom de celui qui a bâti, vous le connaissez peut-être, hein, qui a bâti Palma Nuova. Non, Scamozzi, j'ai dû mettre son nom, S-C-A-M-O-Z-I, Vincenzo, mais avec l'aide d'autres ingénieurs, réussi à bâtir cette cité qui, pour lui, est une cité idéale. Bon, alors, la circulation des ingénieurs italiens dans toute l'Europe fait que le principe de la fortification bastionnée est admis. On peut dire, hein, ça fait partie de l'architecture classique bastionnée en 1600 dans toute l'Europe. Donc, les ingénieurs dont je vous parlais tout à l'heure, les ingénieurs d'Henri IV, qui ont largement œuvré, hein, que ce soit Claude Châtillon, Jean de Benz, etc., ont fait des fortifications, mais n'ont pas laissé de traités. Donc, il faut retrouver dans les fortifications actuelles leur œuvre. Mais le premier à écrire vraiment en langue française, et c'est vraiment un ouvrage de référence, c'est Jean Hérard de Bar-le-Duc, 1550-1610, où il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La fortification réduite en art ». C'est-à-dire que là, il fait le point, hein, de tout ce qu'il sait de l'art de fortifier, aussi bien dans l'évolution temporelle de l'Antiquité à nos jours, mais dans tout ce que les Italiens ont découvert. Et pour lui, il faut trouver, en fait, il faut aller au plus simple, au moins cher et au plus rapide. Donc, c'est des principes d'économie qui vont, en fait, présider à la méthode qu'il préconise pour la fortification. Donc, trouver les solutions les plus simples, les plus rapides, les moins chères. Ça veut dire que là, il y a toujours un critère d'économie dans la fortification. Alors, pour qui est Jean-Érard de Bar-le-Duc ? Il est né à Bar-le-Duc, hein, comme son nom l'indique, et il va, en fait, faire des... En 1594, il va... En 1554, il va faire des études à l'université d'Heidelberg, donc dans l'Empire. Comme il est protestant, il fréquente l'église réformée de cette ville. Et ensuite, il revient en Lorraine, dans sa Lorraine natale. Il va servir le duc de Lorraine. Le problème, c'est que le duc de Lorraine est catholique. Et donc, il ne peut pas rester travailler pour lui. En tout cas, il ne peut pas fortifier des places qui vont être attaquées par des protestants. Ce qu'il fait, qu'il va s'installer à Sedan, dans la ville des princes protestants de Sedan, qui appartient à la famille de la Tour d'Auvergne. Donc là, il continue à travailler aux fortifications, et c'est là qu'il passe au service d'Henri de Navarre, qui n'est pas encore connu sous son nom d'Henri IV, mais ça va venir. Et à son service, il commence donc à travailler sur des fortifications, notamment celle d'Amiens, celle de Calais, et c'est dans ce cadre-là qu'il va finalement rédiger sa réduction en art en 1600, et dont le texte plus complet sera publié après sa mort par son neveu Alexis. Alors, que fait aussi Érard de Bar-le-Duc au service d'Henri IV? Maintenant, il va avoir à fortifier. Alors voilà, dans son traité, ce que doit être pour lui la meilleure fortification. Et vous remarquerez la particularité d'Érard de Bar-le-Duc, c'est qu'il choisit des bastions à angle droit, ce qui va être abandonné après, hein, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il va avoir à fortifier la ville d'Amiens sur ordre d'Henri IV, et il va choisir en fait la forme d'un pentagone régulier. Il ne reste plus complètement les cinq branches aujourd'hui, hein, mais on voit quand même déjà le dessin d'au moins trois bastions, une demi-lune. Donc, il va construire en briques, et il va donc appliquer ici, sur place, à Amiens, son idéal de fortification. Donc, Jean Érard, qui est un théoricien de la fortification, est aussi un réalisateur, puisqu'il va travailler à Bayonne, partie des fortifications de Bayonne, partie des fortifications de La Rochelle, et ce qui explique que Henri IV lui donne le titre d'ingénieur ordinaire des provinces de Picardie et d'Île-de-France. C'est devenu un intime de Henri IV, il assistera notamment à de nombreux conseils royaux. Donc c'est un ouvrage qui marque là déjà ce que l'on appelle la fortification à la française. Bon, ça c'était c'était pas la fortification. Alors, dans les Pays-Bas, ce sont les Italiens qui viennent aussi fortifier dans les Pays-Bas méridionaux ou les Pays-Bas du Nord, même si les ingénieurs des Pays-Bas essaient d'adapter aux conditions locales la fortification. Il y a un conflit qui va progressivement s'amplifier entre les ingénieurs locaux qui disent qu'ils connaissent les meilleures solutions pour s'adapter au climat, au sol, aux eaux, etc., et qu'ils ont les techniques de construction nécessaires, alors que ce que proposent les Italiens, c'est presque toujours de la construction lourdement maçonnée et qui coûte très cher. Donc il y a un conflit et on voit apparaître de plus en plus des ingénieurs des Pays-Bas qui montrent leur savoir-faire. Ici, on a une théorisation des machines, en quelque sorte, dans un ouvrage de Juste Lips que l'on connaît par ailleurs, hein, parce que, je dirais, c'est un théoricien politique. Il écrit le Poliorcéticon, où il fait, là, vous voyez, un inventaire des machines qui servent à l'art des sièges. Donc, ça veut dire que on s'intéresse aussi, dans les Pays-Bas, à cette question de la fortification. Je vous rappelle que le soulèvement des 7 provinces du Nord, qui ont fait sécession par rapport aux provinces méridionales, a occasionné, à cause de la guerre contre la domination espagnole, la construction de fortifications. Et Martens, un historien néerlandais, calculé qu'en fait on avait construit 40 kilomètres de nouveaux remparts. Donc 40 kilomètres de fortifications, pas bien sûr côte à côte, mais au total on est arrivé à 40 kilomètres de fortifications. Ce qui veut dire que le conflit a accéléré la construction de places fortes, aussi bien dans les Pays-Bas méridionaux que dans les Pays-Bas du Nord. Et donc des ingénieurs des Pays-Bas ont progressivement émergé et leur type de fortification a finalement créé école. C'est ce qu'on appelle la fortification à la hollandaise. Souvent, bien sûr, parce que ce sont des fortifications dans des plaines, sur des sols meubles. Ça n'a rien à voir avec la fortification que vous faites, par exemple, dans les Alpes, sur les rochers, où il y a une adaptation au relief, au sol. Quand on est dans des sols mouvants, il faut souvent aussi faire planter des madriers, essayer d'isoler donc la construction de l'eau. On construit sur pilotis. C'est souvent ce que les Hollandais ont appris très souvent au reste. Pas aux Vénitiens qui savaient faire, mais aussi notamment aux Français. Donc les historiens, ça va, oui. Donc les ingénieurs. Je vous disais tout à l'heure que une école d'ingénieurs avait été créée à Leyde à l'initiative de Simon Stévin et de Maurice de Nassau. Dans l'école de Leyde, mais aussi dans l'école de Franeker, dès 1598 à Franeker, on forme des ingénieurs à la fortification. Mais dans les Pays-Bas du Sud, il y a aussi les collèges de jésuites, et là, il faut dire que la fortification est enseignée dans les collèges de jésuites, qui ont souvent des nobles comme élèves. Donc, ça fait partie des cours particuliers, parce qu'on considère que ces mathématiques appliquées leur seront utiles. Donc il y a un des enseignants, Jean Siemens, que l'on connaît d'ailleurs aussi pour ces constructions. Alors, je vais passer maintenant à la fortification bastionnée à son apogée. Alors voilà celui dont je vous parlais tout à l'heure, hein, Vauban, dont le vrai nom est Sébastien le Prêtre. Dit Vauban, c'est le nom d'une terre d'une terre familiale, et il se fait appeler dans le milieu militaire, Vauban. Donc, ingénieur à 22 ans et commissaire général des fortifications à partir de 78. Il sort pas de rien dans sa formation, c'est-à-dire qu'il a été formé, on pourrait dire, par les écrits d'un ingénieur français, le comte de Pagan, qui a écrit et qui, au milieu du XVIIe siècle, avait déjà donné vraiment les bases de la fortification à la française. Donc il va, Vauban, qui est ingénieur, va avoir en quelque sorte la chance, entre guillemets, de servir sous un roi, Louis XIV, qui aime la guerre, ça c'est pas une chance, mais qui préfère une forme de guerre, c'est-à-dire la guerre de siège. Et cette forme de guerre correspond en fait au mode curial de Louis XIV, qui se déplace avec sa cour, qui se déplace parfois avec son épouse et ses maîtresses en même temps, hein, sur le lieu de guerre, en grande pompe. Et donc vous comprenez bien qu'une cour, pour lui donner du spectacle, il vaut mieux en fait un siège. On se met à proximité, loin pour ne pas recevoir des boulets, mais quand même suffisamment près pour être informé de ce qui se passe. Si possible, s'il y a une hauteur, on s'installe sur la hauteur. Et on regarde le siège comme on regarde un spectacle, d'une certaine façon. C'est assez horrible à dire, mais c'est un peu ça. On est un peu encore dans la culture du spectacle. Alors qu'une bataille dont l'issue est complètement incertaine, n'est pas du tout prisée par Louis XIV. Il y a ensuite autre chose, c'est que la guerre de siège permet d'une certaine façon aussi de pouvoir maîtriser le temps. Et ce que Vauban apporte à Louis XIV, c'est la maîtrise, une telle méthode dans l'attaque d'une place qu'il est capable de dire grosso modo au roi le temps de durée du siège. C'est-à-dire qu'il prétend avoir la maîtrise de ce temps. Donc, ça correspond en fait à la forme, on pourrait dire, à la forme de guerre prisée par Louis XIV, qui ne peut pas mettre sa vie en danger, on lui interdit, en étant à la tête de ses armées, sabre au clair ou épée, l'épée levée. On lui interdit même d'aller à la tranchée quand il y a une guerre de siège. Il y est allé au début, il aimait bien aller voir, hein. Il aimait bien sentir le boulet, la poudre, etc. Et il y a eu un tollé, on l'a rappelé à l'ordre en lui disant qu'il n'avait pas le droit de risquer sa vie. Or, pour ne pas risquer sa vie, au fond, la guerre de siège que Madame de Sévigné a comparée à une partie d'échecs qui se joue entre les différentes... Les différents pays convenaient à ce type de spectacle. Alors je vais vous expliquer un peu aussi pourquoi. Bon, ça, la carrière de Vauban, vous retenez surtout qu'il est ingénieur, c'est ce qui est important. Donc, premier ouvrage de Vauban, il est ingénieur. Il a un maître, le chevalier de Clerville, qui est le commissaire des fortifications. Première guerre de Louis XIV, vous savez, Louis XIV va se promener, demander l'héritage de son épouse espagnole, donc une partie des Pays-Bas. 1667, c'est la première campagne. Et dans cette première campagne, les armées françaises sont victorieuses, les villes de Flandre tombent les unes après les autres, et notamment Lille. Vauban, ingénieur, participe au siège de Lille, se fait remarquer comme ingénieur un peu intrépide, prenant de bonnes initiatives. On prend la ville de Lille et immédiatement, le roi absolu pense à une chose: quand on prend une ville qui était sous domination espagnole, qui, les Lillois appréciaient très bien la domination espagnole. Ils voient arriver les Français, il y a quand même pas mal de résistance. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on bâtit une citadelle. Une citadelle, c'est une construction, vous voyez, une fortification qui est à proximité d'une ville, à la fois pour donc avec une garnison militaire uniquement, à la fois pour protéger la ville si jamais il y a une attaque, mais aussi surveiller la ville si jamais il y a insurrection. Et en général, le comble, c'est que quand on construit une citadelle, on demande à la ville de payer la construction de la citadelle qui va aider à les tenir aussi sous le joug français. On demande donc Louis XIV demande des projets pour la citadelle de Lille. Le chevalier de Clerville, qui était en fonction, c'était le supérieur de Vauban, remet un projet. Le jeune, qui voudrait bien se faire remarquer, soumet son propre projet. Et là, Louis XIV choisit le projet de Vauban et pas le projet de Clerville. Donc c'est comme ça que c'est la première citadelle de Vauban, celle qu'il appelle la reine des citadelles. Vous voyez, il a parfaitement intégré la fortification bastionnée, les ouvrages extérieurs, la canalisation de la Deule qui passe à l'intérieur de la citadelle, et il va d'ailleurs devenir gouverneur de l'île où il va vivre. Mais je mets en parallèle, vous voyez, la citadelle de Vauban à Lille, 1667, la citadelle de Charleroi, à gauche, qui a été construite, donc, payée par les Espagnols. C'est l'ingénieur Salomon Van Hesse. Vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. Donc, moi, je reçois généralement des cartes postales des lieux où mes amis vont et où il y a une fortification bastionnée en me disant... On a pensé à toi, c'est Vauban. Ben non, c'est pas parce que c'est bastionné que c'est Vauban. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Vous voyez, si vous allez Charleroi, c'était Salomon Van Hesse qui avait construit. Donc, voilà, à l'intérieur de la citadelle, l'église, toujours ce qui est important, quand on construit une citadelle, le premier bâtiment qu'on construit, ou même une place forte, c'est l'église. Et toutes les églises construites sous Louis XIV sont dédiées à Saint-Louis. Bon. Donc, juste à côté, à gauche, il y a la maison du gouverneur. Mais on fortifie aussi la ville. Donc, vous retrouvez la citadelle de Lille et toute la ville qui est aussi fortifiée. Il faut protéger quand même aussi les Lillois. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire du point de vue, là je fais un peu d'histoire sociale. Le roi arrive, décide la construction d'une place forte ou d'une citadelle, expropriation. En principe avec indemnité, mais on met des dizaines d'années à indemniser. Ce qui fait qu'il y a toute une zone qui est détruite. Lille était une ville très densément peuplée, qui va être une zone non edificandi tout autour de la citadelle, parce qu'on évite de rapprocher trop les constructions civiles de la citadelle. Ça, ce sont c'est vraiment un modèle de tout ce qu'il va y avoir en France, notamment au XVIIe siècle. Mais vous voyez, je vous disais, il y a eu des fouilles, parce qu'un bâtiment a été détruit à Lille, et il se trouvait sur la demi-lune des Suisses, et le temps des travaux, on a pu repérer que c'était bâti sur pilotis et radiers. On est là sur du sol meuble, donc il faut trouver à asseoir la construction. N'oubliez jamais un élément très important qui a été développé au XVIIe siècle, notamment par les Hollandais, mais aussi par les Français, c'est que toute fortification est entourée de fossés, que dans le fossé, il y a toute une série, vous voyez, de défenses, comme ici, ces piquets qui sont dressés, mais que la végétation est toujours un élément importante de défense. Aujourd'hui, on a tendance à raser tout ce qui est au-dessus de la fortification. C'est un peu comme enlever les peintures des églises romanes, etc. Hein, on pense qu'il faut que tout soit nu, mais non. Si, les fortifications jouaient aussi de la végétation. On plantait des espèces qui servaient aussi, comme le tilleul, parce qu'on s'en servait aussi en partie après pour faire la poudre. Et la végétation au-dessus des remparts devait cacher aussi à l'ennemi la vue de l'intérieur de la fortification. On se sert aussi de la végétation comme élément de défense dans l'approche. Donc vous voyez comment ça doit être une fortification qui est étagée. C'est une fortification qui n'utilise pas que de la maçonnerie, qui joue aussi avec la végétation. Alors là, oui. Donc Vauban, qui a continué à servir Louis XIV, l'a servi dans la guerre de siège, et il a très vite préconisé une méthode pour attaquer. Premier mémoire, il le donne à Louvois, son supérieur hiérarchique, sur la conduite des sièges, où il précise, en fait, hein, il détaille, il numérote même les étapes de la conduite, de l'installation des troupes, de la désignation de la ligne qui va servir de base à la tranchée, les tranchées en zigzag qui doivent être faites à partir de la capitale du bastion. La capitale, c'est la pointe du bastion. L'installation de l'artillerie, et ce qu'il va progressivement introduire. On voit ici le plan, un des célèbres sièges qui a été fait conduit par Vauban, sous la direction de Louis XIV, bien sûr. C'est le siège de Maastricht dans la deuxième guerre de Louis XIV, la guerre de Hollande. Il s'agissait de prendre cette puissante ville hollandaise, une ville commerçante qui était sur la Meuse, et on a là le plan de l'attaque du côté français, ce qui veut dire qu'on rappelle qu'on fait une circonvallation, on réquisitionne les paysans qui sont autour de la ville, on ajoute aussi la main d'œuvre des soldats, et on creuse une ligne de défense, un grand fossé tout autour, hein, à la romaine comme César. C'est la circonvallation, qui est donc assez éloignée, à plus de 600 mètres de la place, hors d'atteinte des canons du centre. Ensuite, on va tracer une autre ligne un peu plus à l'extérieur, qui va être une contrevallation. Là, on ne la voit pas, qui va être une contrevallation qui est pour empêcher qu'une armée alliée de ceux de la place vienne leur prêter main forte. Donc, il faut se défendre d'une attaque extérieure, et il faut se défendre de ceux qui sont aussi à l'intérieur. Enfin, se défendre. Oui. On est attaquant, mais on doit quand même aussi se défendre. Ensuite, on définit les différents campements, le parc d'artillerie, et on décide de la direction que vont occuper les tranchées. Et vous voyez, c'est la particularité, c'est que ces tranchées sont des tranchées en zigzag pour éviter le tir d'enfilade de la part des défenseurs. Alors ça, les Turcs faisaient ça aussi. On sait qu'au siège de Candie en 1666, en Crète, les Turcs utilisaient aussi les tranchées en zigzag. Donc c'est pas un apport nécessaire de Vauban. Par contre, on fait tout le travail de creusement des tranchées se fait la nuit. On avance progressivement. On protège. Vous voyez, les soldats sont protégés par ces mantelets en bois. hein, qui doivent servir de protection dans la tranchée. On met aussi des... Alors ça, c'est des... C'est le manuscrit qui est remis à Louvois avait ces petits dessins que je trouve savoureux, hein, sur la conduite des sièges. Et donc ils ont fait avancer, hein, comme cela on fait des places d'armes, c'est-à-dire qu'une partie de la tranchée va être élargie et c'est là qu'on va stocker ce qu'on appelle la place d'armes, qui va permettre de faire avancer les canons progressivement. Bon, donc jusqu'en 1704, Vauban a affiné son système d'attaque des places, si bien que quand Louis XIV l'a fait maréchal en 1703, c'est le premier ingénieur qui était maréchal. Il n'a jamais commandé une armée, c'était un maréchal ingénieur. Bon, donc il lui donnait presque plus rien à faire, sauf qu'il lui a dit, bon, vous allez rédiger un traité d'attaque des places pour l'éducation de celui qui est appelé à me succéder, mon petit-fils, le duc de Bourgogne. C'est pour ça qu'on a un traité d'attaque des places, manuscrit, magnifiquement illustré, qui est destiné à apprendre la poliorcétique à un futur roi. Donc c'est un ouvrage qui est magnifique, qui devait rester secret, sauf que bon, il n'est pas du tout resté secret. Alors là où il y a eu innovation, voyez les tranchées en zigzag. Ce que Vauban a introduit, c'est les lignes parallèles qui vont permettre une circulation pour aller d'une tranchée à l'autre. C'est une des particularités. Ce sont ces lignes parallèles, voyez, qui permettent donc la mobilité des soldats dans l'attaque. Alors voilà, à l'intérieur d'une tranchée, je vous disais, on a des gabions, les dessins les montrent, hein, c'est sorte de panier en osier dans lequel on met des cailloux pour se protéger. Et si jamais il faut traverser le fossé, et c'est un fossé en eau, on va utiliser les fascines. Les fascines, c'est ces faisceaux de branches, vous voyez, qui sont liées comme ça, qu'on entasse les unes sur les autres, et qui permettent de passer les fossés. Alors c'est l'illustration aussi de Vauban, on dirait une bande dessinée. Vous avez les actions des différents soldats dans la tranchée. Voilà ici, hein, une coupe de sape. Voilà. Et donc une fois qu'on arrive au bout de la tranchée, ce sont les mineurs qui vont agir et donc installer des galeries de mines pour s'approcher en souterrain de la place forte. Le tout, c'est que ceux de la place forte n'aient pas installé des galeries de contre-mines, parce que ça se fait aussi. Parce que là, hop, le mineur, il y a une très grande mortalité chez les mineurs, vous comprenez bien pourquoi. Donc, une méthode, c'est-à-dire que pour lui, c'est lui qui doit donner les ordres d'avancement, hein, dans la tranchée, les ordres d'attaque. Et quand on regarde la correspondance entre Louis XIV et Vauban au moment d'un siège, ils s'envoient des billets, plusieurs billets par jour, où Vauban explique ce qu'il va faire et Louis XIV qui lui dit « mais allez-y, continuez », etc. Où il lui dit « j'ai pas assez de canons et il faut m'en envoyer un peu plus et c'est bon ». Donc, l'attaque consiste à faire avancer les canons et à bombarder. Il peut y avoir, c'est ce que Vauban appelle la bombarderie, 24 heures de boulets de canon qui partent sur la ville. Bon. Que font les défenseurs? Quand ils le peuvent, ils tentent une sortie. Mais quand le siège est assuré par Vauban, c'est à peu près un échec. Et va s'instaurer dans ce type de guerre de siège une sorte de codification de ce que l'on appelle la reddition honorable. Vous êtes assiégé par l'armée de Louis XIV, beaucoup de munitions, beaucoup de soldats, tout est prêt, on a avancé, on a installé les mines, on a fait de grosses brèches dans le mur, la courtine qui est entre deux bastions. Et donc, le gouverneur qui est dans la place se pose la question de la reddition. S'il se rend trop tôt, il est accusé, c'est pas une reddition honorable. À ce moment-là, ceux qui sont dans la place n'ont pas le droit de sortir avec les armes, tambour battant. Ils n'ont pas l'honneur de la reddition. Et en plus, il peut être jugé après dans son camp par son souverain. Si il y a eu au moins deux brèches dans la courtine et déjà une avancée des assaillants, il peut battre la chamade. C'est un roulement de tambour spécifique qui signale qu'il se rend. À ce moment-là, il a le droit de sortir avec d'abord avec les armes, et c'est en ordre que toute la garnison peut sortir et à la vie sauve. Et c'est important. Trop résister, c'est pas bon non plus. Parce qu'on considère, c'est-à-dire le pays du défenseur considère qu'il a gaspillé trop d'argent en résistant trop longtemps, des vies humaines et des munitions. Donc on est, vous voyez, dans un équilibre encore, un calcul dans cette guerre, et cette guerre de siège qui est quand même très importante. Alors pourquoi la guerre de siège aussi, et pourquoi autant de fortifications? C'est qu'en fait, dès qu'on a une avancée dans un pays ennemi, c'est le cas de la France, on construit une place forte pour avoir des munitions, une garnison, et montrer une avancée. Ensuite, une place forte, ça sert à avoir des casernements, approvisionnements, et c'est aussi pour dissuader les ennemis confrontés à une fortification qu'il vaut mieux arrêter la guerre. C'est pour ça que les fortifications, notamment les fortifications de Vauban, ont des portes magnifiques. On accuse Vauban de dépenser beaucoup d'argent dans les portes, mais il a une argumentation dissuasive. Notamment la porte de Strasbourg qui est face au Rhin, c'était de dire, quand les ennemis verront cette porte, ils sauront qu'ils ont affaire à un souverain extrêmement puissant et riche, qu'il faut mieux cesser de faire la guerre. Donc, c'est pas le nucléaire, mais c'est la dissuasion par la puissance et par la beauté. Alors, voilà les places. Au total, il y avait 330 places. Il a remanié 165 places. Et vous voyez que c'est absolument toutes les frontières maritimes et terrestres qui sont concernées par ces fortifications. En plus, il a créé des villes neuves. C'est celles qui sont soulignées. Vous connaissez peut-être en Lorraine Longwy. Mais il y a des places aujourd'hui qui restent comme Mont-Dauphin ou Mont-Louis, que vous ne voyez pas, qui est à côté de Villefranche de Conflans dans les Pyrénées. Donc imaginez qu'il y a des chantiers sur toutes les frontières. Bien sûr, le nord, hein, plus de 38%, j'ai calculé, le sud-ouest un peu moins, hein, ça se comprend. Mais vous voyez l'importance de la frontière nord et de la frontière est aussi. Donc, voilà les 9 places qui ont été créées ex nihilo. Classées, ça veut dire qu'elles sont classées au patrimoine UNESCO, parce qu'il y a 12 villes qui sont classées, de Vauban, qui sont classées patrimoine UNESCO, dont Mont-Louis, Mont-Dauphin, Brisac et Longwy. Voilà. Alors, ce que Vauban a demandé dans une lettre à Louvois, il a demandé que le roi fasse son précaré. Alors, l'expression précaré, Vauban l'utilise, mais vous savez, c'est un morvandiot, hein, c'est un homme du terrain. Donc, faire son précaré, c'est comme si le roi était un paysan et qu'il fallait qu'il ferme son champ. Donc, il dit, il faut faire un précaré, c'est-à-dire un territoire, que le royaume soit bien fermé. Et pour le nord, il faut faire le précaré, c'est-à-dire il y a 13 places, ce sont celles qui sont soulignées, qui commencent à Dunkerque et qui se terminent à Maubeuge ici, mais ça va même un peu plus à l'est, qui sont les places de la première ligne du précaré. Si cette première ligne est forcée par l'ennemi, on a une deuxième ligne de Précaré qui va de Gravelines à Avesnes. Donc en fait, ce sont des villes, vous voyez, c'est le plat pays est densément peuplé, donc on a beaucoup de villes. Ce sont des villes fortifiées et qui sont reliées entre elles ou par des routes ou par des canaux, ce qui permet de faire circuler munitions et hommes entre les places fortes de ce précaré. Alors, c'est Vauban qui a utilisé l'expression précaré, les contemporains n'ont pas repris. C'est au XIXe siècle que les militaires ont dit « Ah, mais Vauban avait parlé du précaré » et depuis, on parle de précaré. Alors, Longwy, voilà, Vauban a fait codifier les dessins. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est déjà construit et qui est maçonné. Ce qui est en grisâtre, c'est normalement de la végétation et gazonné. Et en jaune, c'est ce qui est prévu, mais qui n'est pas encore édifié. Donc, il a obligé ses ingénieurs à utiliser des échelles et à utiliser aussi des couleurs différentes, en fait, pour les représenter. Voilà, vous voyez les portes, hein, la porte de Longwy, la porte de France, c'est une très belle porte décorée. Pensez à l'intérieur aussi que les ingénieurs ont à prévoir des systèmes de puits, des citernes. Il faut pouvoir tenir. Mais aucune place n'est inexpugnable. C'est Vauban qui le dit. Résistance pour lui, maximum 3 mois. Toutes les villes peuvent être prises. Fort-Louis-du-Rhin, Mont-Royal. Alors, vous imaginez, au fond, la forteresse de Vauban. Traité de Ryswick, la France est obligée d'abandonner Mont-Royal. On abandonne la place forte, mais on la démantèle. Donc, il n'y a plus rien. On ne laisse pas à l'ennemi une place. Donc, c'est un jeu, vous imaginez, cette guerre de siège, c'est je te prends une place, tu m'en prends une autre, mais si je te la laisse, je la démantèle. Donc, c'est un énorme chantier de construction. Mont-Louis, dans les Pyrénées. Neubrisac, vous connaissez peut-être en Alsace, hein, qui a resté, elle est dans son jus, hein, là c'est actuel. Voilà, donc parce que Brisac avait été remis aux Allemands, il a fallu construire Neubrisac en pleine plaine. Mais partout, vous avez aussi, je vous parlais de normes de construction, j'ai un collègue historien de la fortification qui dit au fond, c'est des maisons clés en main. C'est-à-dire que dans cette fortification, Vauban va construire des casernes. Jusque-là, le soldat n'avait pas de logement. Il loge chez l'habitat. Hein, vous savez, c'est l'impôt de l'ustensile. Ce que les habitants n'aiment pas du tout, hein, voir arriver un ou deux soldats, fournir le pain, la paillasse, l'eau, et des détrousseurs de jupons, etc. Donc, on construit des casernes à l'intérieur des places fortes. Et ces casernes, ce sont des unités. Vous voyez, la cheminée sépare chaque unité. Donc, on a un nombre restreint de lits et un escalier central, de manière à ce que s'il y a un feu ou s'il y a une urgence, il y a très peu de soldats qui doivent descendre en même temps. Et on juxtapose ces unités de construction. Donc, voilà, il y a une unification l'intérieur d'une caserne. Elles sont toutes pareilles. L'architecture de fortification est devenue aussi uniforme. Ça, c'est un portefeuille d'ingénieur. Vous imaginez un ingénieur qui arrive, il dit « Ah, voilà, je peux vous faire tel type de guérite, vous choisissez. Ça peut être pour les villes, ça dépend des matériaux, la forme qu'on veut utiliser. » Ça, c'est ce qu'on trouve. On est arrivé à une telle codification qu'on peut faire. On peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Et je vous disais, la défense, c'est aussi l'eau. Et voilà, une inondation qui a été réalisée, on faisait des expériences. Donc ça, c'est Audenarde aujourd'hui. Et on a réalisé, Vauban a fait réaliser une inondation. Donc il a lâché les vannes de l'eau retenue à l'intérieur de la place forte. Et on a mesuré, chronométré le temps de l'inondation. Bon, c'était désastreux pour les paysans autour, mais on savait, pour la défense, combien de temps avant, dans l'annonce de l'ennemi, on pouvait faire ça. Enfin, une autre réalisation très, très importante qui allie à la fois l'hydraulique et la fortification, c'est Dunkerque. Ça a été aussi un grand chef-d'œuvre de Vauban, malheureusement, on a dû recéder aux Anglais qui ont détruit. Mais vous voyez, c'est la construction de ce qu'il appelle le risban, cette double digue qui s'avance vers la mer, avec un calcul du flot de l'eau des marées qui est chassée par l'intérieur et évacuée donc dans les différents canaux qu'il y a autour de la ville. C'était vraiment une très très belle réalisation hein, que la France n'a pas gardée longtemps. Voilà. Avec toujours cette idée qu'une place forte ne doit jamais être isolée. Elle n'a de sens que si elle est reliée à une autre fortification. Ça, c'est l'exemple, c'est une carte demandée par Vauban, de ce que l'on appelle le précaré. Vous voyez les places fortes qui sont reliées entre elles et qui doivent absolument s'entraider. Faire une barrière, en fait, hein, une barrière à l'ennemi. Voilà. Bon. Ça, c'est des... J'arrête là parce que c'est largement l'heure. Seulement le chantier, pour vous expliquer, pour les piquets, vous savez, et la corde de l'ingénieur que l'on voyait dans la gravure des costumes grotesques, on a seulement cette représentation d'un chantier, c'est l'atlas de l'ingénieur Masse. Et vous voyez comment l'homme qui est en train d'enfoncer le piquet, de tendre les cordes, est en train de traduire sur le terrain ce qui a été dessiné, le plan. Donc il faut qu'il sache aussi traduire, bien sûr, hein, changer d'échelle. Mais vous avez l'ensemble des outils hein, qui sont utilisés avec une innovation sur les chantiers, l'innovation de la brouette. Hein. Ça peut sembler un peu comique, mais c'est... Vauban a dû se fâcher très fort avec Louvois pour obtenir qu'il y ait des brouettes sur les chantiers plutôt que des hottes. Il a augmenté les ouvrages extérieurs. Ça, je ne voulais pas expliquer en détail, mais le nombre de demi-lunes, les ouvrages à cornes, etc. C'est-à-dire que ça devient une superposition, en quelque sorte, dans l'espace, en profondeur de construction. Donc ça, on le reconnaît à ça. La multiplication des ouvrages extérieurs. Il y a aussi tous les systèmes de circulation, mais bon, c'est un peu complexe, hein, les poternes, le pas de souris, etc. Les casernes aussi dans le plan d'une place forte, les casernes sont toujours mises à la périphérie, quasiment contre la muraille. La place d'armes est au centre avec un grand pavillon qui correspond au pavillon du gouverneur et des officiers. Et après, ce sont les bâtiments techniques qui sont développés, aussi bien donc le magasin à poudre que les réserves que pour l'arsenal, que les réserves en nourriture. Toujours un gros travail sur les citernes, tous les moyens pour essayer de recueillir l'eau qui est indispensable. Si on n'a pas de source, si on n'a pas de puits, c'est tout un système de rigoles qui arrive dans des citernes pour recueillir l'eau. C'est indispensable en cas de siège. Il faut de l'eau, des munitions, de la nourriture. C'est ça. Alors, du point de vue de l'armement, ce qu'il a apporté, c'est la baïonnette à douille que l'on met au bout du mousquet. Les armes qui sont les plus usitées pour les soldats, ce sont les mousquets. Et pour permettre l'évacuation des lances qu'on utilisait, si vous avez les images des tercios espagnols, notamment avec les lances, on a progressivement supprimé la lance. Par contre, il fallait une arme qui permette aussi le corps à corps, en quelque sorte. Et c'est la baïonnette à douille qui a permis cela. On laissait tomber la lance et on l'avait au bout du mousquet. Et le mousquet a été remplacé par le fusil progressivement à partir de 1690. C'est Vauban a tout fait pour que le fusil soit utilisé. Mais il y avait un gros problème, c'est que on n'avait pas de cartouches. Donc le soldat avait la poudre dans la poche. Vous imaginez, hein, pour charger son arme. Donc il avait fait faire des petits emballages en carton dans lequel on mettait la mesure de poudre que devait avoir le soldat. Donc je dirais c'est des fortifications. Alors parfaitement adapté au terrain. Là, je ne vous ai pas montré Briançon, par exemple. Hein, mais Briançon, c'est une fortification dans les Alpes complètement étagée. Il faut s'adapter au terrain, ça c'est le credo, mais il n'est pas le seul à le dire, mais il le fait. Donc pour lui, il n'y a pas de plan modèle. Il n'y a qu'un ingénieur qui s'adapte aux conditions, au terrain, aux conditions de matériaux. Donc, ce que fait l'ingénieur quand il arrive, c'est immédiatement inventorier. Est-ce que j'ai de la pierre? Est-ce qu'il y a de la chaux? Est-ce qu'il y a du charbon? Parce qu'on utilise quand même le charbon de terre aussi, de plus en plus. Est-ce qu'il y a des bois? C'est l'inventaire des matériaux. Et on ne peut pas construire si on n'a pas tous ces matériaux à proximité. Donc, c'est une parfaite adaptation. La construction, à Lille, il construit en briques, à Blaye, il construit en pierre. Il s'adapte complètement. On utilise l'ardoise à Nebrisac, on utilise la tuile à Perpignan. Enfin bon, voilà, c'est chaque fois utilisé et si possible utiliser les techniques locales pour essayer de les adapter. Voilà. Et l'attaque, c'est la méthode. Rationnellement. C'est-à-dire que vous imaginez bien que Vauban s'oppose à toute la noblesse. Ceux qui veulent partir à l'assaut et se faire connaître. Donc il y a un antagonisme entre l'ingénieur qui est le technicien qui veut une méthode en avance, au signal, tous ensemble, etc. Et méthodiquement quand les travaux sont faits, et des nobles, des jeunes nobles qui veulent se faire connaître. Donc c'est travail méthodique d'approche et les jeunes nobles, c'est-à-dire ceux qui constituent la garde du roi, les mousquetaires notamment, ou les grenadiers dont la devise est la mort, qui attaquent au dernier moment. C'est eux qui ont le droit d'entrer dans la place et d'attaquer. Les ingénieurs, eux, ils subissent les coups de boulet dans l'avance de l'attaque. Hein. Il y a beaucoup de morts dans les attaques de... Beaucoup de morts d'ingénieurs. Pendant la guerre de succession d'Espagne, il a fallu en remplacer à peu près une centaine de morts. Et comme dit Vauban, un bon ingénieur, ça se fait en 15 ans. Il faut au moins 15 ans. Voilà. Merci à vous.